Merci à vous d'être encore avec nous en ce milieu d'après-midi. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a encore pris la pluie le 8 mai. Ça lui arrive souvent. Depuis quelques années, lorsqu'il sort le 8 mai, le pauvre, il prend une bonne rincée. Puisse-t-il un jour recevoir la pluie du Saint-Esprit ? C'est ce que nous pouvons espérer de mieux pour sa vie. Gloire au Seigneur et pour notre pays aussi. Je vous l'ai dit, Paris pour Christ, ce n'est pas simplement une conférence. C'est vrai que c'est une conférence, c'est un séminaire. Nous avons choisi et vraiment de... Même si nous avons des temps merveilleux dans la louange, et merci encore pour Thierry, pour toute l'équipe qui était là et pour toutes les équipes qui animent tous ces temps de chant, de louange, d'adoration. Oui, nous aimons ça, mais vous le voyez, nous mettons avant tout l'accent sur la parole. C'est un temps où nous venons chercher la nourriture. Ce n'est pas vraiment un temps où nous venons pour entendre comme si nous voulions recevoir de nouvelles bénédictions, ceci, cela. Nous venons ici avant tout pour nous fortifier. Nous venons pour ici nous équiper, nous préparer à rentrer davantage dans l'œuvre que Dieu a préparée pour nos vies, pour nos assemblées, pour ce pays. Mais malgré tout, Paris pour Christ, nous voulons que ça demeure, une fête de l'Éternel. Une fête de l'Éternel, j'aurais aimé voir une fête de l'Éternel au temps de David, au temps de Josias, au temps de Samuel, avant, et voir la ferveur du peuple qui montait à Jérusalem pour fêter la Pâque, la Pentecôte ou les cabanes, et de voir ces chants de louanges qui devaient monter, les trompettes retentir, les cornes bien sûr, et les danses. D'ailleurs, quand on va encore à Jérusalem, on voit encore cela avec les bar mitzvahs près du temple. Et il y a cette atmosphère de joie. Et c'est vrai que le peuple hébreu, le peuple juif est un peuple qui, malgré toutes les souffrances qu'il a subies, est un peuple qui sait exprimer sa joie devant Dieu. Et c'est cet esprit de fête que nous voulons retrouver. Et bien sûr, la fête de l'Éternel, c'est se réjouir. Mais c'est se réjouir dans la présence de Dieu. C'est se réjouir en s'approchant de notre Dieu. Et je crois que nous avons été bénis. Je me réjouis de tout ce que nous avons entendu hier soir, ce matin, cet après-midi. Waouh, le Seigneur nous a nourris, nous a bénis. Gloire à Dieu. Je lui apporte toute ma prière, toute ma reconnaissance. Et encore une fois, je vous remercie pour votre présence au milieu de nous cet après-midi. Voilà, cet après-midi, je vous propose maintenant d'ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Depuis presque une année, je suis... avec l'Assemblée de Bastille, des textes dans cet évangile de Jean, pour tous ceux qui avaient l'habitude des fois de nous suivre sur Internet. Et il est un passage que j'avais sauté il y a quelques semaines parce que je le gardais en réserve pour cet après-midi. C'est Jean chapitre 4 et nous ferons, pour avoir tout le contexte, la lecture à partir du verset 27. Jean chapitre 4 à partir du verset 27. Nous sommes en Samarie. Jésus vient d'avoir un long entretien avec une femme qui était venue pour puiser de l'eau, mais que Jésus a connectée aux canalisations divines afin que plus jamais elle n'ait soif dans sa vie. Et cette femme, vous savez, en repartant vers les siens, va laisser sa cruche, signe de tout son fardeau, tout son passé, elle le laisse aux pieds de Jésus. Parce que maintenant, elle n'en a plus besoin. Et nous sommes là, à ce moment-là, au verset 27, et là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples se disaient les uns aux autres, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mais Jésus leur dit, mais ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Et je vous ai envoyé moissonner, vous n'avez point travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon Père, c'est de ta part que je souhaite parler cet après-midi, exposer ta parole, communiquer ta parole. Mais comment un homme pourrait-il le faire par sa propre force ? Et je te demande de m'accorder cette grâce de parler, non point en parole seulement, mais avec l'Esprit Saint, avec force, avec puissance, avec une pleine persuasion. Donne-moi la grâce de pouvoir communiquer la parole de Dieu qui agira dans le cœur de ceux qui croient cet après-midi. Et je te prie, Seigneur, là, en cet instant, non seulement d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre intelligence, mais d'ouvrir notre esprit, notre cœur, pour que nous recevions cette parole, pour que nous la recevions au plus profond de nous-mêmes, pour qu'elle s'ancre dans nos cœurs, afin, par ta grâce, toi qui fais croître, qu'elle puisse ensuite produire du fruit au centuple. Merci de bénir ce moment. Amen. J'ai commencé à rédiger les points et les quelques notes du message de cet après-midi alors que j'étais dans un TGV un dimanche soir entre Paris et Bordeaux devant me rendre à un comité missionnaire. Avez-vous déjà essayé d'écrire quelque chose dans le TGV ? Il paraît que dans le TGV Atlantique, c'est mieux quand même que dans le TGV Paris-Lyon. C'est peut-être encore mieux pour les autres plus modernes, mais en tout cas déjà dans celui-là, ce n'était pas évident. Ça tremble dans tous les sens. Alors parfois, peut-être que les idées s'agitent un petit peu. Et je ne sais pas si ce message va donner aussi cet effet d'avoir été préparé dans le TGV. Est-ce qu'il sera chaotique ? Est-ce qu'il sera bien construit ? Je ne sais pas. Mais c'est avec vraiment, je crois, une inspiration de l'esprit que j'ai commencé à mettre ces quelques pensées qui venaient sur mon cœur au fur et à mesure. L'évangile de Jean est un merveilleux, merveilleux ouvrage. Pardonnez-moi ce gros mot, c'est un ouvrage de christologie. Qu'est-ce que la christologie ? C'est la science, la doctrine qui nous parle de Jésus. J'aime la christologie. Il n'y a pas de plus belle étude, il n'y a pas de plus belle science que d'étudier notre Seigneur Jésus, parce qu'en lui, il y a tous les secrets de la sagesse, de la connaissance, tout est en Jésus. Et dans cet évangile de Jean, il y a toute la vie de Jésus, tout le cœur de Jésus. Jean nous en parle d'une manière extraordinaire. Vous savez, il a écrit cet évangile dans le tard de sa vie. Il a eu tout le temps pour mûrir, pour grandir dans sa connaissance, dans son intimité avec le Seigneur. Et bien sûr, quand il commence cet évangile, il nous transporte dans les cieux. Comment aller plus loin, plus haut ? Au commencement était la parole. Et chaque mot semble peser, semble divin. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Au commencement était la parole. Et la vie était en elle. Et cette parole qui demeure au Dieu depuis toute éternité, dans le sein du Père, dit Jean. Cette parole s'est faite chair par amour pour nous. Et cette parole est venue habiter parmi les hommes. Cette parole n'est pas venue dans un palais, cette parole est venue dans une étable. Elle n'est pas venue parmi les princes et les rois de ce monde. Elle est venue dans une famille d'ouvriers et d'artisans. Et cette parole s'est faite homme, et cette parole divine, Dieu, s'est fait chair, Jésus de Nazareth. Et quand on regarde à Jésus à travers l'évangile de Jean, nous ne devons jamais oublier cette dimension de la révélation que Jean nous fait de Jésus. Il est fils de Dieu, il est Dieu. Et toute la divinité de Jésus explose dans l'évangile de Jean. Dans chacune de ces rencontres, on est émerveillé, dépassé par ce Jésus extraordinaire. Et puis voilà, il y a le chapitre 4. Et le chapitre 4 est un peu à part. Parce qu'il nous met au contact de l'humanité de Jésus. Jésus est fatigué et il se repose auprès d'un puits. Jésus a soif et il demande à une femme qui s'approche de lui donner à boire. Et Jésus a faim et ses disciples iront chercher à manger pour lui. Les besoins fondamentaux de l'homme, la fatigue, le besoin d'être renouvelé dans ses forces, la soif, la faim. Jésus a vraiment expérimenté et connu toutes ces choses que nous connaissons jour après jour. Et Jésus avait donc faim. Et il avait très faim puisqu'ils avaient marché toute la matinée et avec la chaleur du jour, eh bien, non seulement la soif était là, mais la faim était là. Et les disciples étaient donc partis jusqu'au village pour essayer de trouver quelques victuailles et ils s'en sont revenus avec des sacs, j'imagine, oui, plein de falafel bien épais, bien dodu, et bien plein de ce succulent houmous qu'il faut avoir mangé une fois dans sa vie. Et se dire que tous les enfants israéliens grandissent avec ça jour après jour. Et ils en avaient plein les sacs, ils disaient, on va faire un bon repas. Et puis en s'approchant, en revenant vers Jésus, ils voient que Jésus vient de quitter une femme, ou plutôt une femme vient de quitter Jésus. Ils se sont entretenus, tiens, c'est pas quelque chose de fréquent dans la culture, surtout ici en Samarie. Ils n'osent pas lui poser de questions. Déjà, les disciples avaient déjà compris que des fois, il valait mieux pas trop poser de questions avec Jésus parce qu'on ne savait pas trop vers quoi nous amener les réponses. Alors, ils se retiennent et ils lui apportent la nourriture. Tiens, regarde ce que nous avons trouvé, on va bien manger. Jésus regarde, mais non, ça ne l'intéresse pas. Tu n'en veux pas ? Non. Tu n'as pas faim ? Si, j'ai faim. Jésus a faim, Jésus a très faim. Mais Jésus n'avait pas faim de ce que les disciples lui amenèrent ce jour-là, de ce que les hommes pouvaient lui amener, de ce qu'ils avaient fait de leurs propres mains. Non, Jésus avait faim d'une autre nourriture. Jésus avait très faim d'une nourriture dont il était lui-même à l'origine. Une nourriture qui était là, en train de venir à lui. Le texte le dit, il venait à lui. Cette nourriture, il n'y avait que lui qui pouvait l'avoir. Il n'y avait que lui qui, à ce moment-là, pouvait véritablement s'en nourrir. Et les disciples ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Que quelqu'un t'aurait-il donc apporté à manger ? Mais non. De quoi Jésus avait-il faim ? Il avait faim de ces gens qui commençaient à sortir du village. Ces gens vers qui cette femme avec qui il s'était entretenu, était retournée, cette femme qui, depuis peut-être des années, n'avait plus de contact avec ses voisins. Elle était exclue, une paria du village. Mais revenant sans sa cruche, parce que connectée au réseau hydraulique de Dieu, elle est venue dire à ceux qu'elle connaissait mais qui ne lui parlaient plus, ne serait-il pas le Christ ? Lui qui m'a dit tout ce qu'était ma vie. Et sur le simple témoignage de cette femme, petit témoignage, aussi petit qu'une graine de moutarde. Ces hommes, ces femmes ont commencé à quitter leur activité, leur maison. Rappelons-nous, il était midi, c'était plus l'heure du repas et l'heure de faire la sieste que l'heure de sortir. Mais quand ils ont entendu le témoignage de cette femme, que connaissait-elle de Jésus ? Rien ! Ne serait-il pas le Christ ? Elle en était à peine convaincue. Mais l'Esprit de Dieu était là. La puissance du Saint-Esprit se manifestait déjà. Et ils ont tout quitté pour sortir et aller à la rencontre de ce Jésus dont elle venait de leur parler. Jésus avait faim de cette foule d'hommes et de femmes qui venaient à lui. Et Jésus a encore faim. Et la faim de Jésus est immense. N'est-ce pas le sage qui dit que la faim est insatiable ? La faim du Seigneur pour les hommes est insatiable. Il a faim. Il a faim de voir encore des hommes, des femmes venir à lui. Et il regarde. Et il voit déjà des champs qui sont prêts pour être moissonnés afin que la nourriture soit ensuite apporté, consacré à notre Dieu. Jésus a faim d'une population qui sorte de cette ville de Paris qui vient à lui. Jésus a faim d'hommes et de femmes qui vont quitter nos banlieues, les cités, pour venir à lui. Jésus a faim d'hommes et de femmes qui vont quitter leurs zones pavillonnaires, leurs petites maisons qu'ils se sont construites dans ces zones qu'on appelle périurbaines, pour essayer de trouver un peu d'air frais Il a soif qu'il quitte un peu ce petit confort pour venir à lui. Il a faim de ces gens. Il a faim de ceux qui sont dans les métropoles de province et jusque dans les campagnes les plus éloignées. Il a faim de Français et de Françaises. Jésus ne s'en est pas encore nourri suffisamment. Il a faim d'une moisson qui se lève dans ce pays, qui blanchisse dans ce pays pour lui. Mais la question que je voudrais nous poser cet après-midi, et nous, avons-nous faim? Avons-nous faim comme Jésus a faim? Mais au fait, si nous avons faim, de quelle faim avons-nous faim? De quoi voulons-nous nous rassasier? De quoi voulons-nous nous nourrir? Jésus voulait se nourrir de la volonté de son Père, de cette moisson d'hommes et de femmes qui blanchissaient devant lui. Et nous, de quoi voulons-nous nourrir? De quoi voulons-nous nourrir notre vie? Tout à l'heure, j'entendais Teresa qui parlait au sujet de Daniel et de ses amis, qu'ils se sont gardés de la nourriture du roi de Babylone. Mais nous voulons nous nourrir de la nourriture que Dieu, notre Père, nous donne. Cette nourriture, j'en veux. Cette nourriture, bien sûr, c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi la volonté du Seigneur de sauver les hommes. J'ai faim. As-tu faim? As-tu faim encore d'une moisson d'hommes et de femmes pour notre pays? Et c'est donc dans ce contexte que Jésus adressa à ses disciples cette parole au sujet des moissons. Et là, il dit quatre choses importantes qui me serviront de trame pour ce partage. Au verset 35, il va leur dire tout d'abord, c'est le temps de la moisson. Le temps de la moisson est venu. Il leur dit aussi, verset 35, que nous devons développer une vision de la moisson. Levez les yeux vers les champs. Verset 36, c'est le temps des moissonneurs. Le temps des moissonneurs. Il y a eu le temps des semeurs, il y a le temps des moissonneurs. Et quatrième point, verset 38, il nous envoie moissonner. Et le titre de ce message aujourd'hui, c'est un temps de moisson. Je crois qu'il y a encore de la part de Dieu un temps de moisson pour notre pays. Je crois que Dieu est prêt encore à nous accorder un temps de moisson. Alléluia! Les moissons marquaient le temps en Israël. Non seulement parce que l'économie d'Israël était essentiellement agricole, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais aussi parce que le Seigneur l'Éternel avait associé les trois grandes fêtes annuelles, celles auxquelles tous les hommes devaient monter à Jérusalem, au temps des récoltes. La Pâque se tenait au temps de la récolte de l'orge. Et elle se concluait sur la présentation de la première gerbe d'orge, témoignage de la résurrection de Jésus. 50 jours plus tard, on arrivait au temps de la récolte du blé et de la préparation des pains levés. Et 50 jours après Pâques, c'est la fête des semaines, ou la fête de la Pentecôte, ou la fête des moissons. Et dans la tradition juive, c'est le jour où on lit le livre « Le Megillot » de Ruth qui nous parle. Quel beau livre, Ruth. Waouh, c'est vrai qu'après avoir lu le livre des juges, surtout la fin du livre des juges qui est difficile, hein, des histoires qui nous font mal au cœur. Et on arrive sur le livre de Ruth. Et moi, chaque fois que je finis le livre des juges et que j'arrive sur le livre des Ruth, je dis « Seigneur, ça me renouvelle. » On a l'impression là d'avoir un tableau, vous savez, de ces tableaux flamands qui nous décrivent les cultivateurs dans les champs. Quel beau passage d'histoire de Boaz, de Ruth. Et merveilleux texte qui nous parle de la grâce de Jésus-Christ. Et puis troisième fête, la fête des tentes. À la fin de l'année, c'est le temps de la récolte des fruits. Et fête des tentes ou fête de Soukhot, en automne. Et là, on construisait des cabanes avec des branchages d'arbres touffus, notamment des agrumiers. Et ainsi, chaque fête, chaque grande fête, et trois grandes fêtes étaient associées à un temps de récolte particulier. Croyons-nous que Dieu veut encore marquer nos vies et nos églises de fêtes de célébration en son honneur et donc de fêtes de moissons? Je crois qu'il y a encore des récoltes. Je crois qu'il y a encore au moins une récolte que Dieu veut engranger dans ce pays. Alléluia. Alors oui, en vous apportant cette parole cet après-midi, le message impérieux que Dieu a déposé sur mon cœur dans le TGV est le suivant. Un temps de moisson est possible pour notre pays. Il est possible pour notre ville. Il est possible pour notre église. Il est possible pour nos familles et notre entourage. Un temps de moisson est possible. En tout cas, je crois qu'il est écrit dans le cœur de Dieu. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, et cet après-midi, c'est vrai que nous nous parlons de français à français. Et donc, forcément, mon approche n'est pas tout à fait la même que ceux de nos amis étrangers invités. Et je sais ce que je dis. Et la première chose que je dirais au sujet de ce temps des moissons, c'est ne disons pas « il est trop tard ». Ne fermons pas la porte nous-mêmes à l'idée d'une moisson. Ne disons pas « nous avons travaillé, nous avons labouré, nous avons semé, mais le temps des moissons est passé. Rien n'a poussé, le champ est stérile, les cœurs sont trop durs, les oiseaux ont tout dévoré, les ronces ont tout déchiré. Ne disons pas « nous avons prié, espéré, attendu, mais rien ne s'est produit ». Je sais que pour beaucoup, même dans mon assemblée, combien j'en entends, disent « Mes frères, j'ai prié, je prie, ça fait des années, j'ai les promesses de Dieu dans mon cœur, j'ai prié, mais je ne vois rien venir. » Mais disons avec foi, psaume 126, oh, vous l'aimez ce psaume, « L'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous sommes dans la joie, ceux qui s'aiment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Oh, donne-nous un temps de fête, Seigneur. Donne-nous un temps de joie, un temps d'allégresse. Seigneur, n'as-tu pas encore en réserve un temps de moisson pour notre pays, je le crois. Mais ne disons pas non plus, à contrario, il est trop tôt. Ne disons pas, la France n'est pas prête. C'est ce que les disciples pensaient. Ils regardaient autour d'eux. Mais ce n'est pas le temps des moissons. Et Jésus leur disait non. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Et je veux me rappeler cette parole de l'apôtre Paul dans Actes 14, verset 17, où Paul, prêchant devant des païens, premier message qu'il adresse à des païens, leur dit ceci, il leur parle de Dieu avant même de leur parler de Jésus, il leur parle du Dieu créateur, du Dieu qui tient le monde dans ses mains, et il leur dit, Dieu est le dispensateur des saisons fertiles, qui nous donne la nourriture avec abondance et qui remplisse nos cœurs de joie. Oui, Dieu est le Dieu des saisons. Il dispense les saisons fertiles. Une saison de moisson. Et c'est ça la parole sur mon cœur, le temps d'une moisson est là, le temps d'une moisson est là. Alors, à quoi reconnaissait-on en Israël que le temps des moissons était arrivé? Au vol des oiseaux, au vol des cigognes peut-être, puisque Jérémie chapitre 8 dit que la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Et des fois, vous savez, les oiseaux migrateurs connaissent beaucoup mieux les signes des temps, les signes des saisons que nous. Pourrions-nous au moins avoir la sagesse des cigognes et reconnaître dans les cieux spirituels le temps des saisons et de se dire qu'il y a encore un temps que Dieu a préparé pour nous, a préparé pour cette nation. Mais en tout cas, il y avait un phénomène caractéristique de la saison des moissons, c'était le débordement du Jourdain. Josué chapitre 3 verset 15, Josué 3, 15, il est écrit « Le Jourdain regorge, il déborde ». Par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Alors à l'époque de Josué, et même encore à celle de Jésus, le Jourdain avait une meilleure allure que ce qu'il a aujourd'hui. Ah, pauvre Jourdain aujourd'hui. Des fois c'est juste un petit filet d'eau, tellement l'eau a été captée, détournée. Mais à l'époque de Jésus, c'était un véritable fleuve qui venait. Et sa fonction était là, elle demeure encore la même aujourd'hui. Il descendait les pentes du mont Hermon, il traversait le lac Oulé, le lac de Galilée, et ensuite il fertilisait toute la vallée du Jourdain jusqu'à la mer Morte, et il permettait ainsi les plantations dans cette terre qui sinon aurait été une terre désertique. Il donne la vie, le Jourdain. Le Jourdain, c'est celui qui descend selon son nom. Et c'est vrai qu'au printemps, il était particulièrement puissant à cause de la fonte des neiges du mont Hermon. Et comme à l'époque, il ne subissait aucun prélèvement d'eau, eh bien son débit était impressionnant. Le Jourdain se gonflait, il s'emballait et il finissait même par déborder et inonder les plaines après avoir traversé les lacs. C'était le temps de la moisson. C'était le temps de la bénédiction de Dieu lorsque celui qui descendait depuis la montagne des neiges descendait pour apporter la vie dans les vallées. Il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve de son amour. C'est le fleuve du Saint-Esprit. Il est puissant. Il est chargé des dons du royaume de Dieu. Il déborde partout où il passe. C'est le fleuve de la moisson. C'est le fleuve de la Pentecôte. Et il abreuve les nations de la terre. Qui pourrait contenir ce fleuve? Qui pourrait le dompter? Qui pourrait l'empêcher de couler? Qui pourrait édifier une digue suffisamment haute, un barrage suffisamment massif pour retenir la puissance du fleuve du Saint-Esprit? Les hommes veulent empêcher, bloquer, stopper le déferlement de la vague de l'Esprit. Mais quand il descend, rien ne peut l'empêcher de faire son œuvre. Et quels que soient les projets des hommes, le Saint-Esprit les renversera. Et nous le voyons à l'œuvre dans le monde entier. Renverser les barrages de fausses religions, les barrages de régimes politiques oppressifs. Et partout, le Saint-Esprit fait son œuvre. Savez-vous comment il fait son œuvre? C'est un pasteur américain qui écrivait ceci il y a quelques jours, et c'est pour ça que je veux le mentionner, parce que ça ne venait pas de moi, mais c'est quelque chose qu'il partageait, une très belle idée, un missionnaire. Il dit, oui, dans de nombreux pays, il y a des barrages. Et peut-être avons-nous l'impression que dans notre pays, il y a un barrage d'incrédulité, un barrage de laïcité, un barrage de refus de Dieu. Et dit, voilà comment le Saint-Esprit renverse les barrages. Il ne le fait pas d'un seul coup, mais il va trouver des points faibles dans le barrage et il va percer des trous. Et vous savez qui sont les points faibles? Mais quelque part, c'est nous les points faibles. Nous étions les points faibles dans ce barrage d'incrédulité. Parce que Dieu nous avait déjà choisis. Nous étions faibles, là, dans la pensée du monde. Et quand le Saint-Esprit est venu, nous n'avons pas résisté. Et nous avons accepté, comme Ésaïe le dit, d'être extraits de la roche, extraits du barrage. Et nous nous sommes laissés emporter par le fleuve de l'Esprit. Et autant que je le vois, autant qu'il y a de chrétiens d'assemblée dans ce pays, nous sommes autant de micro-fissures dans le barrage d'incrédulité de cette nation. Et plus il y a de micro-fissures, et plus le barrage est fragilisé. Et un jour, tout sera emporté. Et je crois que le fleuve du Jourdain, le fleuve de l'Esprit, inondera les vallées de notre nation grâce à notre faiblesse dans le système de ce monde. Alléluia. Le Jourdain contribuait donc au mûrissement des récoltes quand il arrivait dans les vallées, qu'il débordait dans les champs. Et cela nous rappelle donc que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Rien ne sert d'entreprendre une quelconque action si celle-ci n'est pas précédée, immergée dans la bénédiction et la puissance du Saint-Esprit. Je le disais tout à l'heure, Pentecôte est la fête des prémices de la moisson. Et l'évangélisation du monde commença ce jour où le Saint-Esprit descendit sur l'assemblée des disciples pour les revêtir de sa puissance et faire d'eux des témoins de la résurrection de Jésus depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour marquer ce jour d'une manière particulière, Dieu permit que 3000 hommes se tournent vers Jésus pour nous rappeler que 3000 hommes avaient péri le jour où la loi fut donnée. Quand le Saint-Esprit fut donné, 3000 furent sauvés. Gloire au Seigneur. Là où le Saint-Esprit agit, comme le dit Jésus, la semence germe, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Marc chapitre 4, verset 27. Saint-Esprit, nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu viennes au milieu de nous. Nous avons besoin, Saint-Esprit, que tu continues à descendre dans cette nation. Car sans toi, que pouvons-nous faire? Nous pourrions travailler jour après jour, mais si tu n'es pas avec nous, si tu ne nous revêts pas de ta puissance, de ta force, si tu n'es pas sur nous, Seigneur, tout ce que nous entreprenons est vain. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de tes dons. Nous avons besoin de ton courage, comme le frère le disait ce matin. Nous avons besoin que nos églises soient renouvelées, réveillées par ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, il n'y a pas de temps de moisson. Et nous te demandons de faire grâce à ce pays qui a peut-être dirigé tant de barrages et de digues, mais tu es puissant pour les renverser. Nous te demandons de faire grâce à notre nation, Seigneur. Amen. Il y a le temps des moissons. Et mon deuxième point, c'est de parler du temps des moissonneurs. Dieu fixe le temps des saisons, il fixe les temps des saisons fertiles et le temps des moissons, mais il nous appartient à nous de comprendre que le temps des moissonneurs est venu. Et les moissonneurs ne doivent pas rater la saison des moissons. Mais bien sûr, si je parle d'un temps de moisson, c'est parce qu'au préalable, tout un travail laborieux, fastidieux, éprouvant a d'abord été entrepris. Ça a été le temps des labours, le temps des semis. Vous trouverez peut-être que ce que je dis là est exagéré, mais la France est une terre qui a été labourée. La France est une terre qui a été ensemencée par l'Évangile. Oh, on peut tout dire, oui, il y a toujours besoin d'en faire plus, d'aller plus loin. Oui, c'est vrai, mais néanmoins, considérons ceci. Je ne vais pas remonter jusqu'au temps des Cévennes et des Huguenots, mais regardons, depuis près d'un siècle, la parole a été portée dans de nombreuses villes et villages. Et en France, c'est un défi avec nos 36 000 communes, même si on aura peut-être moins dans quelques temps. Mais partout en France, des chrétiens prient, jeûnent, crient à Dieu. Partout en France, nous sortons dans les rues. Vous sortez dans les rues, sur les places publiques. Vous allez parfois dans les maisons qui s'ouvrent à vous. Parfois, peut-être d'une manière plus difficile même, sur votre lieu de travail. Vous êtes là pour témoigner fidèlement de Jésus par le don d'une Bible, d'un tract d'évangélisation, par une conversation, parfois ne serait-ce que par une attitude de justice, d'intégrité. Vous témoignez auprès de vos familles, auprès de vos amis, auprès de vos collègues de travail, parfois vous exposant à des colibés. Partout dans notre pays, des campagnes d'évangélisation, grandes, petites, peu importe, mais la parole est prêchée, c'est l'essentiel. Des miracles, des guérisons, oui, dans notre nation, il y a encore des guérisons. Oui, dans nos églises, il y a encore des guérisons. Oui, Dieu est à l'œuvre. Et il y a même des miracles, des délivrances, des vies restaurées et des conversions. Certes, pas autant qu'on pourrait l'espérer, mais il y en a. Ainsi donc, la parole a été semée dans de nombreuses familles. N'êtes-vous pas étonné des fois de rencontrer des gens? Oui, parmi vos collègues, je le disais, votre entourage, et de réaliser que ces gens, à travers la conversation, vous disent « Ah, mais tiens, j'ai un cousin, oui, il va dans une église évangéliste. Il m'en a déjà parlé, je crois que je suis allé une fois à leur réunion. Ça ne vous arrive pas souvent ?» Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un travail qui a été fait. Des églises ont été implantées dans toutes les préfectures, dans de nombreuses sous-préfectures, dans des chefs-lieux de canton, et même jusque dans des villages. Ça ne se fait pas d'aujourd'hui. Nos grands-parents ont commencé à travailler comme des pionniers. Nos pères ont repris le flambeau et nous rentrons dans leur travail, dans cette génération. Ils ont été comme des laboureurs, des semeurs. Et maintenant, Jésus nous commande ceci. Je vous envoie moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Afin donc que la moisson soit engrangée, Dieu veut lever un peuple de moissonneurs pour les envoyer dans les villes, les banlieues, les campagnes de France, moissonner ce que d'autres ont travaillé. Alléluia. Un jour, Jésus fut très fortement saisi dans son cœur. Le Seigneur savait vraiment s'émouvoir devant les foules. Puisse Dieu nous donner cette capacité à nous émouvoir. Il s'est ému devant le besoin des foules qui se pressaient pour venir l'entendre et être béni par lui. Peu importe les motivations des gens, Jésus aimait ces gens. Et Jésus dit à ses disciples, après les avoir considérés, « Priez le maître de la moisson, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Matthieu 9, 36 à 38. C'est très intéressant, notez bien, Jésus ne parla pas du maître des labours. Il n'a pas parlé du maître de la semence, mais il a parlé du maître de la moisson. Dieu est le maître de la moisson. Dieu est un moissonneur. Si Dieu parfois laboure, sème, c'est parce qu'il y a une moisson. Dieu travaille, œuvre toujours pour une moisson. Mettons-nous au diapason de Dieu et devenons à notre tour des moissonneurs. Oui, Jésus n'a pas demandé d'envoyer dans le champ des laboureurs, des semeurs, c'est intéressant. Il a dit, priez d'envoyer des moissonneurs. Mais on pourrait dire, il brûle les étapes. Mais c'est le miracle de Dieu. J'y reviens dans quelques instants sur ce point, mais j'avance un petit peu. La France est donc une terre qui a été labourée, ensemencée. Seulement, quand nous regardons les uns les autres, et quand nous regardons dans nos églises, nous nous trouvons un peu comme ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, nous n'avons retiré aucun salaire, autrement dit beaucoup d'efforts, beaucoup de luttes et peu de résultats. Et nous devons le reconnaître, à cause de toutes ces écorchures, nous avons malheureusement perdu de cette flamme évangélisatrice qui animait nos pères. Nous étions un mouvement d'évangélisation. Nos églises étaient des églises évangélisatrices. Nous avons perdu de cette flamme. Parfois même, nous nous lassons d'évangéliser. Au point même qu'il est plus facile aujourd'hui d'organiser des nuits de prière, des semaines de jeûne et prière, qu'une mission d'évangélisation. Et finalement, nous avons besoin d'entendre la parole que Paul laissa à Timothée, Timothée qui lui aussi, peut-être, avait perdu de cette flamme parce qu'il faisait face à des difficultés dans l'assemblée. Et Paul lui rappelle, fais œuvre d'évangéliste. Timothée n'était pas un évangéliste, c'était certainement plus un pasteur. Et Paul lui dit, fais œuvre d'évangélisation, fais œuvre d'évangéliste. Et nous devons entendre cette parole, mais Seigneur, je ne suis pas évangéliste. Je dis ça moi-même, pour moi-même le premier. Le Seigneur dit, ok, tu n'as peut-être pas un ministère d'évangéliste. Ok, tu n'es pas de ceux qui vont aller frapper aux portes, d'accord. Mais néanmoins, fais œuvre d'évangélisation. Fais œuvre d'évangélisation là où tu le peux. Retrouve quelque chose de ce feu qu'il y avait en toi. Retrouve quelque chose de cette faim qu'il y avait en toi. Dieu est prêt à nous donner un temps de moisson, mais y aura-t-il des moissonneurs qui ont faim d'une moisson dans ce pays? Dieu va-t-il encore trouver des gens, des frères, des sœurs qui ont faim d'aller chercher la nourriture? Avons-nous faim d'une moisson dans notre nation? Pourquoi en sommes-là? En sommes-nous là? À cause de la dureté des cœurs de nos concitoyens, de l'incrédulité, de tout ça, oui, c'est vrai. Mais c'est là que le Seigneur aussi, je pense, parlait à mon cœur. Et j'avoue que je ne réalise pas tout ce qu'il y a dans ce que je vais vous dire, alors vous y réfléchirez par vous-même, vous prierez pour cela. Mais j'ai l'impression que nous considérons l'évangélisation toujours d'après l'angle des labours et d'après l'angle de l'ensemencement, c'est-à-dire d'après une perspective de peine et de tristesse, et non avec la vision de la moisson, c'est-à-dire d'aller ramener les gerbes avec joie. Et pour nous, dans nos églises, oui, l'évangélisation, c'est vrai que certains aiment ça et le font, et je me réjouis pour tous ceux, la belle équipe d'évangélisation que nous avons à l'Assemblée, dans toutes les églises, mais pour la majeure partie d'entre nous, l'évangélisation, c'est des fois quelque chose que, ok, on va le faire, mais des fois quelque chose de subi. C'est difficile, c'est difficile, parce que nous n'avons pas la bonne vision. Nous la voyons toujours comme quelque chose... Ah, il va falloir labourer, on va faire face à des obstacles, on va faire face à des cœurs durs. On va se moquer de nous. Alors que le Seigneur veut nous envoyer moissonner. Et dans beaucoup de choses que le pasteur Carter a partagées, là, dans ses messages, qu'il partagera encore, qu'il a partagé avec moi, je l'entendais, mais c'est exactement ça. Mais il me dit, mais finalement, quand on est animé de cette vision, de ce cœur de moissonneur. Seigneur, je sors pour moissonner. Si je sors pour moissonner, c'est que toi, tu as une moisson qui est prête. Tu as une moisson qui est prête. Le Saint-Esprit est déjà passé par là. Toi, Seigneur, tu es déjà passé par là. Toi, Seigneur, tu as peut-être rencontré une Samaritaine aujourd'hui. Hein, tu as rencontré une Samaritaine. Et tu vois là une famille qui est en train de blanchir pour la moisson. Tu vois là peut-être une vie, Seigneur, qui aujourd'hui, comme il pouvait raconter certains de ces exemples de jeunes hommes qu'il a pu rencontrer à New York, et nous avons vécu, nous aussi, ce genre d'histoire, une rencontre qui est là, une rencontre fortuite. Mais n'était-ce pas là du blé qui était en train de blanchir pour la moisson? Vous voyez ce que c'est l'esprit des moissonneurs? Je veux sortir pour moissonner, Seigneur. Je veux sortir pour moissonner. Conduis-moi vers la moisson. Montre-moi la moisson, Seigneur. Ah, il nous faut continuer à semer. Nous devons continuer à semer. Nous devons continuer. Ah, ce geste, le beau geste du semeur. Il sème abondamment. Et il sème abondamment la parole. Et nous donnons les tracts. Et nous envisageons des actions de masse. Oui, nous devons continuer cela. Mais il y a des moments, Seigneur, je veux dire, Seigneur, envoie-moi pour moissonner. Envoie-moi vers une moisson. Il y a une moisson aujourd'hui qui blanchit autour de chez moi. Envoie-moi vers cette moisson. Et évidemment, quand c'est comme ça, les choses changent complètement. J'aimerais que nous considérions un instant un texte de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe, chapitre 28. Ésaïe 28, à partir du verset 23. Ésaïe 28, verset 23, « Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. » Et voilà le texte qui commence par une question. « Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nigelle et sème du cumin ? Qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords. Et son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Et cela vient aussi de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grande est sa sagesse. Et notre Dieu est un expert en agriculture. Verset 24. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours le terrain? Autrement dit, il y a un temps pour labourer, il y a un temps pour ensemencer, mais vient le temps ensuite de passer à autre chose. Le cultivateur ne va pas passer son temps à labourer. Il ne va pas passer son temps à défoncer la terre. Mais une fois qu'il a ouvert la terre, qu'il a retourné la terre, qu'il a fait respirer la terre, il va semer. Mais il ne va pas passer son temps à semer. Parce que s'il sème, et qu'il ressème, et qu'il revient encore pour ressemer, il va étouffer les semences qu'il a déposées auparavant. Oh, vous savez que des fois, nous avons trop semé. N'est-ce pas? Dans certaines situations, ça nous est tous arrivé, l'immodération, un manque de sagesse, comme il est écrit là. Il parle de la sagesse du Seigneur. Et des fois, nous avons lu trop semé, parce que nous voulions absolument une récolte, une moisson dans une vie, mais à force de mettre trop de semences, on a tué la semence. Il nous faut avoir confiance dans la semence de la parole de Dieu, elle est puissante. Et une fois que la semence est semée dans une vie, nous devons attendre le temps qu'elle produise son fruit. Il y a donc un temps pour le laboureur, il y a un temps pour le semeur, il y a un temps pour le moissonneur. Et la terre de France a donc été labourée, ensemencée. Et aujourd'hui, je veux croire qu'un temps nous vient, le temps de la moisson, le temps des moissonneurs. Nous sommes ces moissonneurs. Mais l'entrée dans une saison de moisson entraîne beaucoup de changements. C'est ce que ce texte nous dit là. Et surtout, je vais utiliser ce mot, c'est le temps d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire le temps de voir les choses d'une nouvelle manière. Quand vient la belle saison, il ne s'agit pas simplement de se découvrir et de mettre des vêtements plus légers, mais quand on rentre dans la moisson, Ésaïe nous rappelle que les outils et les méthodes de travail de la moisson ne sont pas ceux des labours et de l'ensemencement. Ce n'est pas le même métier, quelque part. Et puis, il insiste, hein, il nous parle même de céréales et de choses qui sortent de la terre dont on ignore à peu près ce que c'est, la nigelle. J'en ai jamais vu. Hein. L'orge, oui, bon, je vois à peu près. Mais enfin, ce qu'il veut nous dire, c'est que chaque moisson est particulière. Et chaque moisson nécessite des outils adaptés. Et des gestes adaptés, des outils adaptés et des gestes adaptés. Il dit, on bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. Waouh, là, il faut vraiment de l'expertise, de la sagesse du Seigneur, hein, pour savoir à quel moment il faut battre et à quel moment il faut s'arrêter de battre. Mais là aussi, il faut avoir cette sagesse de Dieu lorsqu'on voit moissonner certaines vies dans ce monde. Parce que si on respecte pas les méthodes et les techniques de la moisson, qu'est-ce qui fait? On perd la moisson. Si on utilise les techniques de moisson du blé pour l'orge, pour l'épeautre ou pour la nigelle, on va perdre la nigelle. Si on essaie d'appliquer la méthode et les outils de la nigelle au blé, on va perdre le blé et on risque de détruire la moisson, la récolte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes face à différentes populations, différentes cultures, différents environnements de vie. Mon frère Bertrand, qui est là, habite à une vingtaine de kilomètres d'ici. Son assemblée est à une vingtaine de kilomètres du centre-ville de Paris, mais nous sommes dans deux moissons complètement différentes. Et il est évident que lui, travaillant à Montfermeil, n'a pas du tout la même récolte devant lui que ce que nous avons ici, en centre-ville de Paris, que ce que vous pouvez avoir dans votre assemblée. Et là aussi, nous devons chercher auprès de Dieu la sagesse admirable est son conseil, grande est sa sagesse. Et si Dieu est un maître en agriculture et en moisson de céréales, je crois qu'il l'est encore plus en moisson d'hommes. Et avant de foncer tête baissée, de vouloir appliquer des méthodes et ceci et cela, essayons de comprendre quelle est la moisson que nous avons en face de nous. Et comment nous devons travailler? Oui, mais allez voir le Seigneur, il sait, il sait, il est capable de nous donner un conseil, de nous donner sa sagesse par rapport au champ qui est devant nous. Mais savez-vous quelle est la chose la plus difficile et la plus importante de toutes? Ce qui doit évoluer avant toute autre chose dans le paradigme des moissons, dans la nouvelle manière de voir les choses à cause des moissons, il faut changer nos mentalités. Je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, que j'avais laissé. Oui, nous devons changer de mentalité. Le chrétien du champ de Dieu en France doit changer de mentalité. Il doit devenir un moissonneur. Il doit devenir un moissonneur. Quand trop souvent, la seule vision, comme je disais, que nous avons d'évangélisation, donc notre seule mentalité a été conditionnée par ça, c'est labourer, ensemencer. Quand est-ce qu'on verra quelque chose? Labour, sors, sème. Et Et c'est frustrant parce qu'évidemment, on est dans une terre qui est dure. On a l'impression d'être toujours en train de labourer, toujours en train de semer. Mais lorsque le temps de la moisson vient, lorsque le temps des moissonneurs vient, on doit changer notre mentalité, notre cœur. Seigneur, fais de nous des moissonneurs. Fais de nous des gens avec une nouvelle vision, la vision de la moisson. Je ne vais pas parler cet après-midi sur ce qu'est un moissonneur, ça serait un sujet à part, mais simplement ce point. Avant tout, être moissonneur, c'est avoir une vision de la moisson. C'est ce que Jésus partage aussi avec ses disciples. Donc les disciples étaient partis lui chercher à manger, et nous l'avons dit, Jésus n'en voulait pas. Et il leur dit, j'ai une nourriture spéciale dont je veux me nourrir, me rassasier. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jésus était en train de regarder la femme samaritaine et qui témoignait là, à l'entrée du village, un peu plus loin, aux siens, à ses amis, à ces gens qu'il avait rejetés, peut-être à sa famille. Je ne sais pas, peut-être même était-elle en train de témoigner à l'un de ses cinq maris, si, et le sixième avec qui elle n'était pas mariée, s'il était encore vivant, et j'en sais rien du tout, mais elle était en train de leur dire, n'est-il pas le Christ ? Et ces gens, d'une manière miraculeuse, étaient en train de venir vers Jésus, et là il les voyait, et il dit, les champs blanchissent déjà pour la moisson. Jésus avait faim de ces gens qui venaient à lui. Oui, avons-nous autant faim que Jésus ? Avons-nous encore faim, mes frères et sœurs ? Avons-nous encore faim d'âme ou sommes-nous rassasiés? Avons-nous la même faim que Jésus? Et des fois, nous pouvons nous poser la question, c'est certain de savoir si les chrétiens ont encore faim de la même nourriture que Jésus. Quand on voit ce qui est l'intérêt principal des gens aujourd'hui dans les messages qui sont les plus populaires, les thématiques les plus abordées, on voit que c'est avant tout des messages qui les concernent eux. C'est ce que le frère Carter nous disait au sujet de la prière ce matin. C'est vrai, il y a un temps où on a besoin de prier pour soi parce qu'il faut grandir, mais tout ça c'est pour nous préparer à aller vers les autres. Mais aujourd'hui, on sent de plus en plus dans beaucoup d'églises que, excusez-moi, dans beaucoup d'enseignements, on va plutôt parler comme ça parce que je crois que ce n'est pas au niveau des églises souvent, mais au niveau de certains enseignements, mais où c'est, on nous ramène à nos centres d'intérêt. Qu'est-ce que je vais manger pour moi? Qu'est-ce que je vais manger pour m'engraisser? Et c'est pour ça que nous devons savoir si nous avons la même faim que Jésus. Jésus, lui, avait faim des hommes et des femmes qui venaient à lui. Et dernière question, avons-nous faim maintenant? Avons-nous faim aujourd'hui? Les disciples voyaient bien des champs, mais à 4 mois de la saison, le blé est encore bas. Je ne sais pas si c'était le blé, de l'orge exactement, j'en sais rien. Je ne sais pas non plus parce que pensez bien qu'à Paris ou en banlieue, on ne voit pas souvent du blé pousser. Ça fait quelque temps que je n'ai pas traversé un champ de blé. Quand j'étais gamin à Gap l'été avec mes parents, je voyais autour les champs de blé, mais je n'allais pas souvent parce que chaque fois que je traversais, je m'enrhumais, pas possible, j'étais allergique à ça. Donc je les évitais, sauf quand on allait faire des chewing-gums de grains de blé. Mais je pense que 4 mois avant la moisson, il ne doit pas y avoir grand-chose à voir. Hein. Je ne sais pas, il faudrait un expert. 4 mois avant la moisson, où en sont les blés? Est-ce qu'ils sont encore sortis de terre? Déjà sortis de terre? S'ils sont sortis de terre, ils doivent être très bas. Alors quand Jésus leur dit cela, les disciples regardent les champs autour et... Une moisson, mais elle n'est pas là la moisson, hein? Oui, tu n'as pas tort, on dit il faut encore 4 mois, oui, c'est sûr, il faut encore patienter, Seigneur, et nous, c'est ce que nous disons, Seigneur, oui, certainement, on a semé, mais avant que ça vienne, il va falloir encore attendre, oui, c'est pas faux, seulement Jésus, lui, mangeait déjà. Jésus déjà savourait, déjà, ça c'est le mot-clé de ce verset, déjà, lui déjà voyait les choses quand eux ne voyaient rien du tout. Jésus mangeait déjà, moissonnait déjà, quand eux se demandaient encore ce qu'ils voulaient bien dire. Quand les hommes ne voient que du sable ou des pierres, Jésus voit déjà une moisson. Quand nous ne voyons que stérilité ou aridité, Jésus voit déjà une moisson. Quand il nous semble que nous sommes en plein hiver, que tout semble figé, paralysé, gelé, Jésus voit déjà une moisson. Des fois, nous ne voyons rien ou si peu. Et pourtant, Jésus nous dit, la moisson est là. La moisson est déjà là. Ô Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux voir comme toi tu vois. Seigneur, apprends-moi à voir. Parce que Seigneur, comment vais-je devenir un moissonneur si déjà je ne vois pas la moisson ? Si je ne vois pas la moisson, Seigneur, mais comment reconnaîtrais-je la moisson ? Comment même pourrais-je te demander, Seigneur, quelle technique, quel conseil, quelle sagesse, si je ne sais même pas reconnaître qu'il y a une moisson devant moi ? Si je ne vois même pas la moisson, alors Seigneur. Mais avec Jésus, c'est vrai que le Seigneur nous prend toujours un peu de travers, parce qu'il ne fait jamais les choses comme tout le monde. Lui nous envoie maçonner quand tout semblera. Et il nous dit, la moisson est déjà là, parce que le moissonneur est un homme de foi, c'est une femme de foi, c'est un homme, c'est une femme de vision. Mais Jésus voyait cette femme, cette Samaritaine, qui là, un peu plus loin, était en train de témoigner aux siens. Il la voyait comme une pousse tendre de blé qui sortait de la terre, qui sortait de cette terre gelée, de cette terre aride de Samarie, qui était là peut-être encore en plein hiver. Et il voyait à travers elle une moisson qui grandissait, une moisson qui levait, une moisson qui blanchissait. Et là, les foules commençaient à venir à lui. Et Jésus savourait la moisson d'âme qui s'annonçait dans cette province de Samarie. Jésus nous invite à lever les yeux, comme il le fit pour ses disciples, à lever les yeux de la foi. Lève tes yeux sur ta ville. Lève tes yeux sur ta famille. Lève tes yeux sur ton voisinage. Lève tes yeux sur ton entreprise, ton administration. Seigneur, montre-moi la moisson. Montre-moi les moissons. Quand tout me dit, quand mes sens me disent qu'il n'y a rien qui pousse, montre-moi la moisson. Quand tous mes sens me disent « c'est l'hiver », Jésus, montre-moi que tu es le Dieu du printemps, le Dieu des saisons fertiles et que tu tiens, Seigneur, toutes choses entre tes mains. Seigneur, donne-moi la vision de la moisson afin que je ne dise plus où est la moisson. Seigneur, montre-moi les champs qui blanchissent déjà. Le dernier point que je veux voir avec vous maintenant, rapidement, comme je l'évoquais avec Ésaïe, il faut donc voir la vision, mais il faut savoir voir la moisson, mais il faut savoir aussi reconnaître la moisson, là où elle est, et puis savoir aussi la prendre, la saisir dans la forme dans laquelle elle se présente à nous. Et je veux simplement évoquer trois difficultés, je vais rester assez généraliste dans ce que je vais dire, mais trois difficultés que représentent les moissons, et vous pourrez méditer aussi sur cela. Premièrement, il arrive que les champs qui blanchissent ne soient pas ceux que nous attendons, que nous espérons. C'est le cas ici des Samaritains. Si les disciples pouvaient envisager une moisson d'âme, ils l'espéraient plutôt soit au sud en Judée ou au nord en Galilée, mais en Samarie. En Samarie. Et vous savez, il nous arrive, à nous aussi peut-être trop fréquemment, de nous fixer obstinément sur tel ou tel champ, attendant qu'il mûrisse. « Seigneur, fais mûrir mon champ !» Seigneur, fais mûrir ce champ. Seigneur, fais blanchir ce champ. Et on peut y rester comme ça, et on prie, et on prie. Alors qu'un autre est en train de blanchir juste à côté. Seigneur, fais mûrir mon champ. Et l'autre est en train de mûrir. Nous n'y prenons pas garde. Nous n'y prêtons pas attention. Pourquoi ? Ben, c'est pas mon champ. Ce n'est pas mon champ. Je n'ai pas travaillé. Mais Jésus nous dit, ce n'est pas ton champ, c'est mon champ. C'est mon champ. Et je t'envoie moissonner dans mon champ. Et c'est ce champ que je suis en train de faire blanchir. Et nous rappelons cette parole de l'apôtre Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui fait croître. Et des fois, c'est très déstabilisant. Moi, je voudrais, Seigneur, que mon champ blanchisse. Et le Seigneur est en train de faire croître le champ d'à côté. Mais Seigneur, ce n'est pas mon champ, c'est ton champ. Tu es le maître de la moisson. Seigneur, donne-moi la grâce de lever les yeux vers les champs qui blanchissent déjà. Ce mot est extraordinaire. Et je veux te dire, mon frère, ma sœur, qu'il y a déjà des champs qui blanchissent autour de nous. Il y a déjà des champs qui blanchissent autour de nous, même s'ils sont ceux que nous n'attendons pas. Peut-être même sont ceux que nous ne voulons pas. Pas ça, Seigneur. Allez moissonner cet homme dans cette situation de détresse familiale, de perte d'emploi, d'échec social. C'est pas forcément cette moisson-là que je voudrais. Je voudrais une autre moisson. Mais Dieu nous dit, écoute, aujourd'hui, c'est ce champ que je fais blanchir. Et c'est vers lui que je veux t'envoyer moissonner. Et ça, c'est une des premières difficultés. Un premier défi. La deuxième chose avec les moissons de difficile, c'est qu'il y a souvent peu de rapport entre ce qui a été semé et ce qui est récolté. Rappelez-vous ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, 37. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé. 1 Corinthiens 15, 37, s'ils mettent le texte à l'écran. Donc c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Mais Dieu lui donne donc un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Regardez un pépin et regardez une pomme. Le pépin, la pomme. Dans la pomme, les pépins, et le pépin va donner la pomme à travers le pommier. Mais quel rapport entre le pépin et la pomme ? Ne mangez pas le pépin, ça n'a pas le goût d'une pomme. Le pépin ne se mange pas, il se sème. Ou alors il se jette. Mais semez-le. Mais Seigneur, comment imaginer que de ce pépin-là, je vais avoir une magnifique Granny Smith, toute verte, avec ce pépin. Il faut avoir une imagination très fertile ou acquis une connaissance pour faire le lien entre les deux. Hein. Mais même si vous mettez un pépin de pomme dans la main, je suis incapable de vous dire si ça va faire une golden, si ça va faire une redshift, si ça va faire une pomme Canada ou autre chose. Pour moi, c'est un pépin de pomme. Dieu sait, lui, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est programmé à l'intérieur, mais moi, je suis incapable de vous dire. Je ne sais même pas si un spécialiste pourrait vous dire quelle est la différence entre les pépins de pomme. Et quand on vous donne des noyaux, des pépins, des semences que vous n'avez jamais vues auparavant, vous êtes incapable de dire ce que ça va produire, n'est-ce pas? Pof! Vous vous retrouvez avec un bulbe. Tiens, j'ai trouvé un bulbe. Bon, on va le planter en terre, on va bien voir ce que ça donne, parce que je suis incapable de voir ce que ce bulbe va donner. Imaginez, je vais ouvrir le bulbe. Mais peut-être à l'intérieur, je vais voir ce qui se passe et je vais comprendre quelle fleur je vais avoir. Vous pensez bien, c'est pas comme ça que ça va faire. Hein. Non, le seul moyen pour savoir quelle fleur je vais avoir avec le bulbe que j'ai, c'est de planter le bulbe. Mais sinon, je suis incapable de savoir ce que mon bulbe va me donner. Et la moisson divine est tout aussi désarçonnante. Vous semez telle parole de Dieu, vous allez dans tel sens, parce que vous imaginez que vous allez obtenir tel résultat, et puis c'est quelque chose d'autre qui se manifeste. Et ça ne ressemble pas du tout à ce que vous escomptiez, au point que vous vous demandez si c'est réellement la moisson promise. Seigneur, c'était ça ma cible. Alors j'ai pris cette semence. Et puis comme Paul le dit, ben Dieu donne à la semence le corps qui lui plaît. Et puis on se retrouve avec autre chose. Seigneur, je veux vraiment cibler tel type de population. Et puis, patatrac. Voilà que ce n'est pas eux qui ont répondu, mais que c'est d'autres. Mais c'est quoi ça? N'est-ce pas ce qui nous arrive parfois? Nous avons semé une certaine semence, pensant obtenir une certaine moisson, et Dieu donne un corps inattendu à la semence que nous avons plantée, nous ne savons pas comment réagir. Au point d'être désemparés, combien d'églises ont été ébranlées par l'arrivée d'une moisson d'âme inattendue? Nous avons prié, nous avons distribué des tracts, nous avons fait des campagnes d'évangélisation, nous avons demandé au Seigneur de bénir notre ville. Oh, je me rappelle toujours, vous certainement, bien des frères et sœurs, vous les avez entendus, nos frères, toute la génération des pasteurs comme Guy Bergamini, Claudio ou Michel Balverde, qui nous racontent là, dans les assemblées de l'Est, quand il y a eu le réveil parmi les drogués dans ces églises, ils sont arrivés là, tous, ils nous racontent à chaque fois, Guy sait bien le faire, avec leurs cheveux longs, leurs chiens en plein milieu de l'assemblée, et les mamies qui étaient là, qui se demandaient ce qui se passe. C'est ça, la moisson. Et Dieu merci qu'il y a beaucoup de mamies qui savent réagir comme il faut. Et puis des fois, il y en a d'autres dans les églises qui savent réagir. Oh, ça, c'est pas bien. Ça peut pas être de Dieu, ça. Qu'est-ce que cette histoire? On n'a pas prié pour ça, nous, on voulait les gens bien. Des fonctionnaires. Emploi stable, offrande stable. Pas de mutation, famille tranquille, et on a quoi, des hippies, avec des jeans troués. Et vous savez que des églises se sont fracturées sur ça. Mais c'est un drame. Et c'est vrai que Dieu, des fois, met bien des assemblées au défi d'une moisson inattendue, et il n'y a pas de rapport, des fois, entre le pépin et la pomme. C'était pas un grain de pépin, un pépin de pomme. Je sais pas, c'est devenu une courge. Dernière chose concernant les moissons. Je l'ai déjà évoqué avec Ésaïe, avec le texte d'Ésaïe qui nous sensibilise à la question des différentes moissons. J'arrive à la fin, rassurez-vous. Nous ne pouvons nous permettre d'ignorer les différences. Hein. Vous rappelez-vous la nigelle, le blé, l'épeautre, enfin tous ces trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Nous ne pouvons nous permettre d'ignorer ces différences et agir comme si nous n'avions qu'une moisson. Seigneur, waouh, des hommes, des femmes, toi tu ne fais pas de distinction, c'est vrai. Mais Ésaïe le rappelle, le blé doit être moissonné de telle manière, avec tel outil, autant de temps, et l'agnelle doit être, elle, par contre, moissonnée d'une autre manière, avec tel autre outil. Et si les méthodes et les outils ne sont pas respectés, il y a risque de perdre la moisson. J'ai été étudiant à Paris il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps. Et j'ai quitté ma ville de Bordeaux, j'ai quitté mes parents, donc j'avais 19 ans. Le Seigneur m'a permis de trouver un joli petit studio dans une belle ville du Val d'Oise, Montmorency. J'étais bien là-haut, c'était sympa, mais forcément, j'ai passé 3 ans ici, dans ce temps d'études à Paris. Et donc, quand je suis revenu ici avec mon épouse pour venir servir le Seigneur dans cette église de Bastille, vraiment dans mon cœur pesait le fardeau de la jeunesse. Parce que je savais ce que ça pouvait représenter comme risque de se perdre que de monter tout seul à Paris. Donc j'ai vraiment eu ce fardeau et vraiment le Seigneur a parlé à mon cœur d'un projet qui à l'époque était assez innovant. D'ailleurs, chaque fois que j'explique, même encore des pasteurs et dans des églises n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qu'on fait et de quoi je parle. Mais on parle des jeunes adultes. Alors les pasteurs, oui, ils me disent, un groupe de jeunesse. Non, ce n'est pas un groupe de jeunesse. Ah, ce n'est pas un groupe de jeunesse, c'est quoi alors? Un groupe d'ados? Non, c'est des jeunes adultes. Mais c'est quoi des jeunes adultes? Oh, c'est une espèce parisienne. Vous les trouvez près des bars, en train de prendre un café ou un... Non, un smoothie ou des choses comme ça, enfin, c'est... Voilà. Mais ce sont quoi? C'était des jeunes souvent de nos assemblées de province qui ont grandi dans nos églises, vous les avez portés sur vos genoux. Et puis après, ils ont bien grandi et ils ont fini leurs études en province ou même à l'étranger et puis... au gré d'un concours, d'une école, elles se retrouvent à Paris, ils ont 21, 22 ans, ils sont souvent quand même en deuxième cycle d'études supérieures, ou alors ils ont décroché leur diplôme, et puis souvent le sub-job qui s'ouvre à eux, c'est de venir sur Paris, un poste dans une entreprise ou quoi, sur Paris, en banlieue, à La Défense ou ailleurs, et ils arrivent ici, ils ont donc 22, 23, 24, 25 ans, voilà, ça c'est cette tranche d'âge. Et c'est une tranche d'âge tellement importante parce que c'est vraiment l'entrée dans la vie active, la vie professionnelle, c'est les années où les décisions les plus importantes, la vie familiale et bâtir une vie d'adulte. C'est des années si importantes. Et puis à Paris, vous savez, c'est tellement facile de se perdre. Et on a eu ce fardeau, dès qu'on est arrivé, on a eu ce fardeau sur notre cœur. Dieu a permis que nous puissions travailler et confier ce ministère à deux pasteurs. D'abord à Benjamin qui a travaillé avec nous d'une belle manière pendant plusieurs années, puis Pierre qui l'a suivi. Et Dieu vraiment a confirmé, j'ai vu le travail qu'ils ont fait. Et forcément, je reconnais mes frères et sœurs, hein, des fois, je sais que par moments vos oreilles plaident, crient au Seigneur parce que des fois c'est un peu fort ou ceci ou cela, et puis des fois vous êtes un peu bousculés. Mais je voudrais que vous réalisiez que Dieu a mis en face de nous une moisson qui était là. Et il est évident que dans la bonne assemblée de la Roquette, 70 ans d'existence, c'est la plus vieille assemblée de Dieu de Paris, 1936, et donc elle avait toute une histoire. Eh bien, quand on a amené ça, ça n'a pas été forcément simple. Mais je remercie toutes nos mamies de leur patience. Merci. Mais je voudrais que vous réalisiez, vous voyez un miracle se faire, une moisson qui est là. Et de voir tant de dizaines, de centaines de jeunes, et maintenant ils se préparent à en recevoir à la rentrée, ils se disent combien on va en avoir, Seigneur, cette année, 100, 120, 150 qui nous arrivent, et d'en voir maintenant même de plus en plus s'engager dans les eaux du baptême, des jeunes qui sont là dans cette ville de Paris, des jeunes de Paris, des jeunes de banlieue, et même des jeunes d'ailleurs qui viennent et qui se tournent au Seigneur, des jeunes de toute nationalité, c'est notre joie, notre bonheur. Nous n'avons pas fait de Bastille une église de jeunes adultes, ce n'est pas notre idée. Nous voulons garder, c'est vrai, une église multigénérationnelle, une église multiethnique, c'est notre défi, nous voulons cela. C'est vraiment ce que nous avons sur le cœur. Mais c'est vrai que nous avons adapté nos outils, nous avons adapté nos méthodes de travail. C'est vrai que nous avons peut-être, parfois, je le dis, je le confesse, c'est vrai, nous avons négligé peut-être certaines choses pour accentuer sur cela. Pourquoi ? Parce que c'était là que le Seigneur nous disait, il y a un champ qui blanchit pour la moisson. Mais que voulez-vous, le quartier de Bastille particulièrement, si vous allez le voir, il est un peu plus loin, mais à Bastille, il y a plus de monde la nuit que le jour. Et on est dans un des quartiers de France les plus jeunes. 42% de la population a entre 20 et 39 ans, donc on ne compte pas les enfants encore. 42% de la population entre 20 et 39 ans, la plupart sont célibataires. Bon, ça c'est autre chose. Mais ils ont entre 20 et 39 ans. Et ils sont là autour de nous. Ils viennent faire la fête à Bastille. On ne peut pas les ignorer. Et Seigneur nous disait, mais ça c'est votre champ qui blanchit. Et c'est vrai que, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas aller vers ces jeunes avec les méthodes que nous avions dans nos assemblées. Et je bénis le Dieu de ce que, eh bien, ils ont su développer, ils développent de plus en plus des méthodes qui leur permettent d'atteindre ces jeunes. Et de plus en plus, ils ont le cœur d'aller vers cette moisson. Parce qu'à Paris, eh bien, Dieu fait lever une moisson de jeunes gens, une moisson de jeunes adultes. Et ils sont merveilleux, ils sont capables. Je vais vous dire, si je dis tout ça, c'est pas pour glorifier Bastille. Vous savez pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, ces jeunes, ce sont vos enfants. Et nous essayons d'en prendre soin le mieux possible. Et nous nous sentons redevables vis-à-vis des assemblées de province, de ce que vous nous avez confié, vos jeunes. Vous pouvez le dire dans vos églises. Nous voulons en prendre soin. Pour faire d'eux des serviteurs de Dieu, pour faire d'eux des moissonneurs. Apprenons donc à reconnaître les moissons que Dieu fait blanchir et adaptons nos outils, adaptons nos méthodes. Remisons les outils, abandonnons les méthodes que nous maîtrisons peut-être, mais qui ne sont pas adaptées. C'est vrai que par moments, on se dit, ah, ça je sais bien faire. Battre, ça je sais faire. Je vais prendre mon vent et je vais y aller. Ça, je sais faire. Oui, mais ça, c'est fait pour le blé, mais ce n'est pas fait pour l'autre. Ah oui, mais je sais faire. C'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que j'ai toujours fait. Oui, certes, mais si tu vas faire ça, tu vas tout gâcher. Oui, mais c'est ce que je sais faire, mais tu vas tout gâcher. Et c'est un combat, vous comprenez, c'est un combat. Mais l'essentiel, je le dis souvent, ce n'est jamais le comment, c'est le pourquoi. Et quand le comment prend le pas sur le pourquoi, on est en danger, dans un danger de sclérose. Réfléchissez à ça aussi. Quand le comment prend le pas sur le pourquoi. tout cas, le maître de la moisson connaît ses moissons, il connaît ses champs, il connaît ses plantations. Et il nous appartient de rentrer dans ce qui est avant tout son champ. Même si le champ nous surprend par sa forme, même si le champ qui blanchit n'est pas celui que nous escomptions, Seigneur, c'est ton champ. Les disciples n'imaginaient pas que le Seigneur ferait blanchir un champ de Samaritains. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait, il a envoyé ses disciples. Et plus tard encore, après que Philippe soit allé faire une super campagne d'évangélisation, eh bien Pierre et Jean reviendront pour encore une fois moissonner dans cette province coincée entre la Judée et la Galilée. Mes frères et sœurs, le fleuve de l'Esprit déborde dans le monde entier. Et parce qu'il déborde, il déborde partout. Qui peut l'empêcher de déborder ? Ne pensez pas qu'il ne pourra pas déborder jusqu'à nous. Le fleuve de l'Esprit, ce n'est pas le nuage de Tchernobyl qu'on peut arrêter aux frontières de l'Alsace. Le fleuve de l'Esprit va venir jusqu'en France et il est déjà là. Et rien ne pourra l'empêcher parce qu'il déborde dans le monde entier, parce que c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la dernière grande moisson. Le Seigneur est si proche. La dernière moisson, après, ça sera celle des anges. Mais là, elle nous échappe. Oh Seigneur, je crois que non seulement un temps de moisson est possible pour notre pays, mais je crois, Seigneur, qu'un temps de moisson pour notre pays est déjà là. Et ma prière, Seigneur, ce n'est pas que tu nous accordes une moisson, mais que tu nous montres la moisson qui blanchit déjà. Montre-nous les champs qui blanchissent déjà. Seigneur, y aurait-il qu'une tige de blé qui pousse toute seule à un endroit et qu'il faut aller moissonner parce qu'elle blanchit, je veux y aller. Seigneur, n'as-tu pas envoyé Philippe sur la route déserte qui mène à Gaza pour aller vers cet homme, cet eunuque ? Lui qui venait de prêcher aux foules en Samarie, tu l'as envoyé vers cet homme ? Seigneur, s'il n'y avait qu'un homme prêt à être moissonné, je veux aller le moissonner. Seigneur, fais-moi, accorde-moi la joie de vivre une expérience de moisson. Seigneur, donne-moi cette expérience. Je veux moissonner une âme. Avez-vous moissonné quelqu'un ? Voulez-vous moissonner quelqu'un ? Vous verrez que vous nourrirez vos vies alors. Seigneur, donne-moi faim de tes moissons. Donne-moi un cœur de moissonneur. Donne-moi une vision de tes moissons. Seigneur, envoie-moi vers ta moisson, celle qui blanchit déjà. Je vais faire un appel tout à l'heure. Je ne vais pas vous fatiguer plus que ça parce que ce soir, je sais que la réunion va être extraordinaire. Mais ça ne va pas être un appel. Moi, je veux savoir si tout à l'heure, il y a des gens qui veulent s'enrôler dans la moisson. Mais je finis par ça. Juste, ça va être très court, pardonnez-moi. Si nous sommes tout d'accord, si nous sommes d'accord avec cela, il nous reste encore une chose à faire. Il faut transformer nos églises en greniers. Il faut transformer nos églises en greniers, comme au temps de Joseph et des 7 années de moisson exceptionnelles. Il faut que nos églises deviennent des greniers pour la moisson. Des églises qui ont une vision de la moisson. Des églises peut-être dans lesquelles il faudra faire de la place pour la moisson. C'est ce que je vous disais au sujet de Bastille. On a dû des fois pousser un petit peu. Faisons de la place. Oui, on est passé de 1 à 3 cultes. On se demande si on ne va pas en faire un 4e. Et parfois, elles me disent, frère, moi aussi. Oui, parfois, donc, c'est une question de place assise, mais c'est surtout une question de place dans les cœurs, vous le savez. Élargissez-vous, dit Paul. Serons-nous acceptés et recevoir ce que Christ nous envoie moissonner ? S'il nous envoie moissonner des hommes, des femmes que nous ne sommes pas capables ensuite de recevoir au milieu de nous, quelle tristesse. Et puis, véritablement, est-ce que nous serons prêts, individuellement, et puis en tant qu'Église, en tant que famille d'Église, est-ce que nous sommes prêts au bouleversement qu'entraînera le temps de la moisson que Dieu nous donne ? Que nos églises deviennent des greniers. Alléluia. Alors, je dis, je ne veux pas vous épuiser plus que là. Si les frères simplement jouaient de la musique, je ne veux pas aussi les fatiguer, ils nous ont déjà donné tellement, mais Voilà, je veux faire un appel. Des fois, j'aime bien faire ma chose un peu différent. J'ai envie de faire un appel explosif, un appel de joie. Parce que quand on part à la moisson, c'est avec joie. Et y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui a envie de dire, Seigneur, je voudrais vivre une expérience de moisson. Voilà, voilà, je veux, Seigneur mon Dieu, un jour, pouvoir aller chercher, ne serait-ce qu'une âme, Seigneur. Amen. Merci. Merci, ma sœur. Êtes-vous prêt? Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre ça? Attention, c'est peut-être pas forcément le chant que tu veux. Es-tu prêt à t'enrôler dans la force de travail des moissonneurs du Seigneur? Seigneur, je suis labouré, je sais semer, je l'ai fait pas mal, Seigneur, mais j'aimerais vivre quelque chose de nouveau. J'aimerais vivre une expérience de moisson. J'aimerais vivre un temps de moisson dans ma vie. Alors, si vous avez envie de cela, j'aimerais que vous vous leviez. On va prier quelques instants, puis ensuite nous joindrons tous. Ceux qui ont envie de vivre cela. Seigneur, je voudrais moissonner un homme, moissonner une femme, un collègue de travail, si tu veux. Moissonner peut-être celui qui est à côté de moi, à côté de chez moi, là, sur le palier, qui parfois me casse la tête avec sa musique. Je voudrais, Seigneur, moissonner peut-être, Seigneur, mon supérieur. Je voudrais moissonner, Seigneur, mon collaborateur, ma collaboratrice qui bien des fois m'énerve, me fatigue, mais je sais, elle vit quelque chose de difficile. Je voudrais moissonner, Seigneur, peut-être un enfant. Je voudrais moissonner une famille. Je voudrais peut-être moissonner, Seigneur, cet homme qui est là au bas de ma rue, qui n'a rien à manger, qui vit dehors. Je voudrais moissonner une âme, Seigneur. Donne-moi une foi de moissonner. Donne-moi goût aux moissons. J'ai faim d'une moisson. Je voudrais qu'on loue le Seigneur ensemble. Élevons nos voix. Que ce soit votre prière. J'ai suffisamment parlé. C'est à vous de parler. À vous d'exprimer au Seigneur votre désir. À vous de lui dire, Seigneur, je réponds. Je veux moissonner. Je veux être un moissonneur. Montre-moi. Montre-moi, Seigneur. Alléluia. Je veux vous entendre. Je veux vous entendre quelques instants. Je veux vous entendre.